Bonjour, bonjour à tout le monde, petits et grands, enfin moyens et grands, on dira. Merci d'être venu si tôt ce matin pour cette rencontre avec Nathalie Legendre. Nous allons discuter à bâton rompu avec cet auteur de talent que vous connaissez certainement.
Ou pas.
Et si, dans ce cas, je vous invite à découvrir ces ouvrages très rapidement, vous aurez des univers complets à explorer. Donc bonjour Nathalie Legendre.
Bonjour Gilles.
On va discuter pendant une heure en fait de tes travaux, de tes travaux d'écriture, de tes travaux presque idéologiques. Il y a une dizaine d'années que Nathalie Legendre apparaît dans le paysage de la science-fiction et de la littérature jeunesse en France, avec des livres, j'imagine, qu'elle écrit depuis au moins votre âge.
Non, même encore plus petite que
encore
ça.
Encore plus petite.
Ouais.
Et ce qui frappe à la lecture de cet auteur, c'est surtout que c'est une romancière qui aborde des sujets graves de société, des sujets graves concernant l'humanité, la place de l'homme dans la société, la place de l'être humain en général, parce que c'est l'homme avec un grand H. Et ce sont des sujets qui sont assez peu abordés finalement dans la littérature jeunesse. Donc moi j'aurais plein de questions à lui poser par rapport à justement à cette façon d'aborder les sujets entre littérature jeunesse et ce que l'on pourrait appeler des sujets adultes quand même. Donc est-ce que tu pourrais par exemple nous parler de ton processus de maturation quand une idée arrive, quand un sujet, j'ai envie de dire un sujet brûlant, te démange, comment est-ce que tu le mets en place pour
écrire le roman après? Déjà bonjour. Moi, j'ai une façon très très particulière d'aborder l'écriture et les thèmes qui me viennent. Comment vous expliquer ? Ce qui m'interpelle, moi, c'est la souffrance humaine. Je ne supporte pas la souffrance humaine. On a de quoi puiser dans notre monde. Et quand j'ai un déclic de romance qui est très amusant, c'est que le déclic est là, il va mûrir tranquillement, presque inconsciemment, mais j'ai les personnages qui vont venir. Et c'est avec les personnages que je vais écrire. J'écris pas toute seule, j'écris avec les personnages. Si j'ai pas un personnage qui va me faire vibrer, qui va me faire pleurer, qui va me faire rire, parce que... Alors, je vous préviens tout de suite, je suis un peu folle sur les bords. Donc je parle à mes personnages et ils me parlent beaucoup. Et pour moi, ils sont vivants. C'est comme si je rencontrais quelqu'un dans la rue. Et puis voilà, on a une affinité ensemble et on a envie de faire un bout de chemin et de devenir amis et d'essayer de se comprendre l'un et l'autre. Avec mes personnages, c'est exactement la même chose. Donc ce sont les personnages après qui vont enclencher le processus de maturation réelle du roman. Après, à partir de là, je me mets à écrire. C'est vrai que c'est des sujets assez brûlants qui sont dans mes livres. Ça peut être la maltraitance, ça peut être le combat face à la maladie, c'est toujours des thèmes très forts et très durs, mais qui pour moi sont essentiels. Mais c'est pas pour ça que les romans vont être pessimistes, parce que je suis d'une nature plutôt optimiste. Donc du coup, je laisse toujours une note d'espoir dans mes livres, ce qui est extrêmement important. Sinon, si vous commencez à lire un roman et puis que vous vous y ennuyez, ou alors que c'est vraiment très plombant et que vous n'avez plus du tout envie de le finir, ou alors ça vous fait voir la vie en noir, c'est pas la peine. Autant arrêter d'écrire.
Alors ces personnages, quand ils te font rebondir comme ça dans le processus, est-ce qu'il y a des personnages, par exemple, que tu as finalement abandonnés ? Est-ce que ça arrive ?
Non, jamais. Les personnages principaux... Les personnages secondaires, ouais, ça peut m'arriver.
Oui.
Ça peut m'arriver, mais pas les personnages principaux. Ils sont trop importants pour moi.
Et alors, par exemple, on voit beaucoup, et je pense que là, les lecteurs dans la salle doivent en avoir plein les cartables aussi, des romans fleuves, je dirais, hein, des gros pavés en littérature jeunesse qui se développent sur plusieurs tomes et autres. Et toi, tu as la particularité, justement, par rapport à ce type de romans fleuves, de faire ce que l'on appelle des one-shots, hein, c'est-à-dire un récit qui se termine en un seul tome. Et qui ne fait pas 8 kilos par tome. Donc est-ce que j'imagine que c'est une volonté, mais est-ce que de temps en temps tu n'aurais pas envie justement de t'installer dans un univers complet ou de reprendre peut-être un des personnages de tes premiers romans pour l'amener dans un autre univers et développer ça sur plusieurs tomes ou,
J'ai beau aimer mes personnages, vraiment, mais au bout d'un moment, j'en ai marre d'être avec eux. J'ai envie d'en découvrir d'autres. Donc du coup, une fois que je les ai aidés, une fois que le roman est fini, je les laisse, je les lâche, j'en découvre d'autres, mais ils restent quand même en moi. Les anciens personnages vont quand même revenir me voir. J'aime pas les suites, j'aime pas traîner toujours dans les mêmes univers. Moi, j'aime bien découvrir d'autres choses, d'autres points. Je peux pas m'installer dans un univers bien précis et y rester. C'est pas possible.
Mais quand tu dis que c'est les personnages en premier qui comptent autour de tes romans, on a quand même l'impression que c'est aussi le sujet que tu vas traiter en fait à travers ce roman-là qui tient le roman. Et peut-être que cette idée de refermer le livre à un moment donné, cette fin arrive en fait quand le sujet est traité. Finalement,
c'est
peut-être.
Ça. C'est
peut-être
ça.
Que c'est aussi ça qui fait que ça ne s'installe pas sur un univers complet.
Oui, mais je pourrais prolonger. Je vois dans Les Larmes de Gaïa, on me demande régulièrement une suite. Je laisse toujours une fin ouverte à mes romans. C'est intentionnel. C'est pas pour écrire une suite, c'est pour laisser libre part à l'imagination du lecteur. J'ai pas envie de tout lui bouffer tout cru. C'est vrai que je suis, même si je suis tellement installée avec ces personnages-là. Non, je peux pas, j'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas. Je les ai aidés. J'ai écrit le roman, je les ai aidés d'une situation totalement inextricable ou dramatique. À partir du moment où le roman est fini, ils n'ont plus besoin de moi, ben on arrête.
Et est-ce que tu as eu, parce que alors c'est vrai que les sujets abordés sont quand même des sujets quasi des sujets coup de poing. Hein. On a les SDF, le mêlé au sida. La maltraitance, la pédophilie
au sein de l'Église.
Alors par exemple, donc sur les orphelins de Najat, donc sur ce sujet brûlant. Donc il y a peu de temps une polémique autour de ce livre-là. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est dans une région pas très éloignée d'ici d'ailleurs.
Ouais, non. Alors on va essayer de commencer depuis le début en fait. Dans les orphelins de Najat dénoncent la pédophilie au sein de l'Église. Je savais que c'était un sujet très brûlant, donc avant de l'écrire, j'en ai parlé à l'éditeur avec lequel je travaillais, et pour savoir s'il était capable d'accepter un livre pareil. Il m'a dit oui, le contrat était signé, j'ai écrit le bouquin, sauf que, entre-temps, pendant l'écriture du livre, cette maison d'édition s'est faite racheter par un groupe, le groupe Fleurus, qui est un groupe catholique de droite. Et évidemment, ça m'est retombé dessus, il a été censuré par l'éditeur, il a fallu se battre, il est quand même sorti. Il a été sélectionné pour le prix Ado de la ville de Rennes. Je pense que vous connaissez. Et quand on me l'a appris, j'étais très très contente, mais surprise, parce que bon, en Bretagne, on est quand même assez religieux. Et je me suis dit, mais je vais avoir des problèmes. Mais je ne m'attendais pas à avoir le problème qui m'est tombé dessus deux jours après qu'on m'annonce que les orphelins de Najat soient sélectionnés. C'est le diocèse de Rennes qui a censuré carrément le bouquin. Voilà, qui l'a retiré de la sélection. Donc évidemment, on s'est encore battu. Le livre est réapparu miraculeusement 24 heures après, mais en sous-marin, ils ont fait ce qu'il faut pour l'évincer de la sélection et pour éviter que les adolescents le lisent. Voilà. Alors ce qui a énormément dérangé, c'est... Enfin, moi, je trouve impensable. C'est un roman de science-fiction, c'est quand même une fiction. Malheureusement, c'est un sujet réel. Il s'est passé des choses comme ça des années et des années en arrière. Ça arrive encore, on en parle énormément, c'est médiatisé. Mais voilà, on préfère fermer les yeux, on préfère ne rien dire, on préfère tout cacher. Moi, je trouve ça ridicule. Donc, moi, les sujets coup de poing comme ça, mettre le doigt là où ça fait mal, c'est ce que j'aime le plus.
Alors, au cours de cette polémique, j'imagine que tu as eu des retours de lecteurs qui t'ont exprimé leur soutien. Et ouais. Dans le courant de tes rencontres avec ton public, j'imagine que les réactions sont aussi fortes que les sujets abordés, peut-être.
Ah, c'est extrêmement fort, ouais, c'est très très fort. Pas que sur un sujet comme celui-ci. Hein. Je vais prendre par exemple dans Les Larmes de Gaïa, celui-ci. Je vais prendre dans Les Larmes de Gaïa qui dénonce la maltraitance sous toutes ses formes. Quand je fais des interventions, enfin des rencontres scolaires, quand je vais dans les établissements, je sens qu'il y a comment vous expliquer, il y a un frein au départ, quand je commence à intervenir, je sens qu'il y a des questions qui sont là et les adolescents n'osent pas me les poser. Et quand enfin ils arrivent à me dire, mais souvent c'est déguisé, quand ils arrivent à me dire, mais est-ce qu'il y a une part de vécu dans vos romans ? Et là je sens que ça commence à se lâcher, et quand je leur dis oui, oui, il y a toujours une part de vécu dans mes romans, malheureusement c'est comme ça, mais la vie est belle, je leur montre qu'on peut s'en sortir. Et là, le frein n'est plus là, n'existe plus, on se lâche totalement. Et j'ai des retours, mais incroyables. On revient me voir après les rencontres en me disant, mais merci, merci, parce que grâce à vous, je sais que d'une, je ne suis pas seule au monde. Ça m'a permis de lire, ça m'a permis de réfléchir, ça m'a permis de découvrir énormément de choses. Ce qui a été créé est magique. Il y a un lien qui est extraordinaire.
Les sujets abordés sont des sujets adultes. On est d'accord.
Ouais.
Ton public et ton univers s'adressent à la littérature jeunesse. Or, pour avoir lu nombre de tes livres, quelle est la frontière ? Où est la frontière entre ce que l'on appellerait la littérature jeunesse et la littérature adulte ? Puisque souvent, quand on pose la question, en premier, l'auteur répond souvent « le sujet abordé ». Or, toi, le sujet abordé, il a déjà franchi cette limite. Donc,
il n'y en a pas de limite.
Où est la frontière ?
Pour moi, il n'y en a pas de frontière. Pour moi, la littérature vieillesse ou jeunesse, c'est exactement la même chose. Je dis vieillesse, hein. Je fais exprès. Parce que nous, on est considérés, en tant qu'auteur jeunesse, on est considérés comme de la sous-littérature. Donc, pour moi, il n'y a pas de frontière. Un livre, c'est un livre. Il y a une histoire. C'est ce qui est important, que ce soit pour adultes ou pour la jeunesse. Maintenant, oui, là où... la différence pour moi qu'il y a, c'est que moi j'ai envie de toucher un public d'adolescents pour les sensibiliser. Alors il n'y a pas que des problèmes humains, il y a des problèmes de société, il y a des problèmes écologiques, c'est vraiment pour les sensibiliser. Excusez-moi hein, les adultes, mais je pense que j'ai plus besoin de vous sensibiliser, quoi. Je pense pas hein.
Oui, c'est un public perdu.
Non, quand même pas à 100%, parce que sinon ça devient dramatique.
Et est-ce que, alors, dans tes projets, en termes d'écriture, justement, est-ce que une publication adulte serait envisageable ?
Alors, tu m'aurais posé la question il y a une semaine, je t'aurais dit non. Sauf que alors, je suis...
Un scoop.
Ouais. Je suis en train d'écrire un roman, et donc j'en suis rendue aux trois quarts, et je me suis aperçue en l'écrivant que... il est plus destiné aux adultes qu'aux adolescents. J'ai vraiment très très peur que mon public adolescent s'y ennuie. Voilà. Alors j'en dirai pas plus, que je suis très superstitieuse. Donc peut-être qu'il sortira en adulte, peut-être qu'il sortira en jeunesse, je sais pas. Mais il est vrai que... voilà, c'est... à mon avis, c'est plus une réflexion pour les adultes que pour la jeunesse.
Ah, ça pique la curiosité, bah parce oui, qu'en fonction de tes sujets, je pense par exemple à Brune et Jules, qui est un texte quand même que moi je considère vraiment un texte adulte, dans les situations, dans le déroulé de l'histoire et dans la façon dans ton écriture même. Donc là c'est intriguant ce que tu me dis sur un prochain sujet.
Et ça m'intrigue aussi, parce que j'ai pas l'habitude d'écrire des romans qui peut-être vont être prédestinés aux adultes, et pourtant j'en ai pas envie. J'en ai pas envie du tout. Mais voilà, c'est venu comme ça. Alors des fois, on fait des choses...
C'est venu comme ça. Alors parle-nous un petit peu de ce processus-là, justement. On sait que tu es... je dirais attiré et baigné par la culture amérindienne, par exemple.
Ouais.
Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta cuisine interne là, pour tes lecteurs et lectrices, là, nous raconter un petit peu comment se passe la journée, quand tu es à l'écriture. Alors, par exemple, est-ce que tu écris à l'ordinateur directement? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu te balades avec des carnets? Est-ce que tu écoutes de la musique à fond? Est-ce que, voilà, quoi, tout ça?
Ouais, et ben, en fait, j'ai deux façons d'écrire. J'ai deux phases dans l'écriture. J'ai une première phase que j'appelle la phase de... Alors, je suis désolée, hein, l'image n'est pas très très belle, mais je pense que vous allez la comprendre. J'appelle la phase de vomi. Je vomis, tout simplement. Pourquoi je vomis? Parce que quand... Je vais y aller à fond, hein, excusez-moi. Quand on a envie de vomir, on a mal au ventre, on a mal aux tripes. Il faut que ça sorte. On n'arrive pas à se retenir. Non seulement il faut que ça sorte, mais on ne se soucie absolument pas de savoir dans quel état ça va sortir, ni savoir dans quel état va se retrouver la cuvette. Vous êtes d'accord avec moi? Quand j'écris ma première version, c'est ça. Je vomis, je jette tout sur papier. J'ai énormément d'émotions, il faut qu'elles sortent. Par contre, je me contrefiche du français. Mais totalement. Les fautes d'orthographe, les répétitions, les phrases torturées, je m'en balance. Pourquoi? Quand vous êtes en train de vomir, est-ce que vous arrivez à un moment de temps à vous retenir en vous disant « Ah, c'est pas très joli comme j'ai vomi là. Il va falloir que je vomisse différemment. » Non, on n'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Si vous y arrivez, chapeau. Mais moi, j'y arrive pas. Et donc, ma première version d'écriture, c'est ça. Il faut que je jette toutes mes émotions sur papier. Et si je commence à me dire « Attends, là, t'as fait une faute, cette phrase, elle veut rien dire. T'as répété ce mot 10 fois, il faut que tu trouves un synonyme. » Ça me coupe mon envie de vomir. Par contre, une fois qu'on a bien vomi, il faut tirer la chasse d'eau. Il faut nettoyer. Et là, je m'amuse à tout nettoyer, mais je m'amuse comme une petite folle. C'est un vrai régal pour moi. Donc, la phase de vomi, je vais vomir 7 à 8 heures par jour minimum ou par nuit, parce que je travaille beaucoup la nuit. J'adore écrire la nuit. Je peux vomir aussi bien sur mon ordinateur que sur des carnets. Je vous ai pas apporté là le carnet sur lequel je travaille en ce moment. J'écris essentiellement au crayon à papier. Là, le dernier roman que je suis en train d'écrire, il est essentiellement à la main. J'ai écrit 17 chapitres à la main. Voilà, c'est chacun son truc. Après, je recopie, et à partir du moment où je recopie, je retravaille.
Tu arrives à relire ton vomi?
Ah oui, sans problème. Ouais, sans problème. Quand je suis en phase de vomi, il faut que je mange. Il me faut du carburant. Alors, j'ai un très très grand bureau sur lequel est étalé tout mon bazar. J'ai plein de feuilles volantes partout. Enfin, c'est avec des bonbons, des chips, des gâteaux. En musique, principalement en musique. Alors, pas n'importe quel style. Plus ou moins n'importe quel style de musique, mais après, tout dépend de l'ambiance que je vais avoir dans mon roman. Et parfois, je vais trouver une musique qui va m'interpeller, qui va me titiller, que je vais me passer en boucle pendant que j'écris un chapitre. Ça me garde dans l'ambiance. Je peux écrire aussi bien à mon bureau, que vautrer dans le canapé, que dans mon lit, qu'à l'extérieur, n'importe où. Il n'y a aucun problème. On peut venir m'embêter, mais... Bon, il ne faut pas trop insister non plus. Par contre, quand je suis en phase de retravail, de nettoyage, là, c'est le silence total. C'est minimum 12 à 15 heures par jour ou par nuit. Là, je ne mange plus du tout. J'oublie même de mes repas. Et là, j'y vais à fond. Il ne faut pas venir m'embêter. Du tout, du tout, du tout.
On sent cette urgence dans le livre. Je reviens à ce qu'on disait au début, à savoir sur le sujet d'actualité, en fait. On a l'impression que le sujet que tu vas traiter, enfin, pas forcément d'actualité, mais en tous les cas, le sujet que tu vas traiter, il faut qu'il soit mis en place rapidement, il faut qu'il soit même dans le temps.
Il y a une urgence, effectivement. Il y a une urgence. L'urgence, elle est que les émotions que j'ai, que je ressens en moi, ou que je ressens avec les personnages que je vais mettre en scène, il faut qu'elles sortent. Je ne peux pas les garder en moi. Ce n'est pas possible. C'est extrêmement douloureux. Donc, pour moi, oui, il y a une réelle urgence. Parce que sinon, j'ai trop peur qu'en fait, les émotions s'étiolent et que j'arrive plus à écrire.
Alors, j'imagine que les premiers romans, par exemple, sont sortis d'une émotion, que tu as portée longtemps, puisque c'est souvent comme ça quand on écrit depuis toujours. Les premiers romans sortis sont ceux que l'on a portés souvent le plus longtemps. Cette émotion, justement, admettons, j'imagine peut-être que tu la pêches à la ligne dans ce que tu entends, dans ce que tu vis, dans ton environnement, malheureusement dans les actualités, dans les choses comme ça. Et c'est quelque chose que tu vas retourner autour pendant longtemps, ou est-ce que c'est vraiment même à partir de là, l'urgence de se poser, de vomir, comme tu dis.
Non, là, il n'y a pas d'urgence. À partir du moment où c'est là, où c'est à l'intérieur, il faut que ça mûrisse. Et quasiment inconsciemment.
Tu gardes cette émotion.
Ouais. Il faut qu'elle enfle, en fait. Et à partir du moment où elle est bien là, énorme, comme un ballon de baudruche prêt à éclater, là, c'est bon. Là, il faut, et c'est là que l'urgence arrive. Il faut que je jette, il faut que je vomisse.
Alors, moi, je me dis qu'un écrivain, peut-être, il peut rebondir sur des tas de sujets, sur des tas d'émotions, justement. Comme tu dis, c'est vrai que j'imagine qu'il y a des périodes plus ou moins calmes.
Ouais.
Et des périodes plus ou moins agitées. Alors en ce moment, par exemple, est-ce que tu as des sujets qui t'agitent? Bon, on peut faire un blind test, par exemple, au hasard, les expériences pour l'exploration martienne?
Non.
Pas plus que ça.
Non, ça ne m'intéresse pas, ça.
Les primaires socialistes?
Non, ça ne m'intéresse pas encore moins.
DSK
encore moins. Non plus. Ah non. Non, moi, ce qui m'intéresse, comme je vous ai dit, j'aime pas la souffrance humaine. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est l'humain. Et pour moi, c'est le but de l'anticipation. C'est de s'intéresser principalement aux rapports humains et aux certains faits de société, que ce soit présent ou passé, qu'on balance dans le futur pour essayer de deviner ce que va devenir notre monde. Ça m'intéresse. C'est pas compliqué. Il y a un sujet qui m'interpelle depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai écrit un roman il y a une dizaine d'années que j'ai laissé dans mes tiroirs et que j'ai envie de retravailler, qui parle de jeunes personnes, je vais dire grossièrement handicapées, soit malentendantes, soit tétraplégiques, soit malvoyantes, voilà. Ça, c'est un sujet qui m'interpelle, mais dans le futur, essayer de voir si on ne peut pas réussir à faire quelque chose. Si médicalement, avec par exemple la réalité virtuelle, on ne pourrait pas vraiment essayer soit de comprendre ces personnes-là pour savoir comment elles vivent, ou les aider à essayer d'avoir accès à quelque chose qui n'est pas possible en l'état actuel des choses. Voilà, des trucs comme ça.
Par exemple, là, un roman qui n'est pas sur la table, mais 49302 autour de l'affaire Cesnec et donc de cette injustice. C'est un des seuls romans, je dirais, que l'on peut identifier sur une personne précise dans ta création. Comment c'est venu, en fait? Tu peux nous en parler un petit peu de ce roman?
49
Les rapports avec la famille, peut-être?
En fait, 49302 s'est imposé à moi, mais il s'est imposé depuis toute petite. J'ai entendu parler de ce sujet d'actualité. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire-là de Guillaume Cesnec. C'est un Breton qui, en 1923, a été accusé d'avoir assassiné son meilleur ami, qui a été envoyé au bagne, qui est resté plus de 20 ans, qui a fait plusieurs tentatives d'évasion. Dans les bagnes, il faut savoir que les détenus étaient torturés. Donc il a vécu des choses atroces, il a réussi à s'en sortir, parce qu'il est très très rare, il était très très, très rare à l'époque de pouvoir s'en sortir vivant du bagne. Et donc moi, cette histoire m'a interpellée. Il n'y a jamais eu de preuve comme quoi c'était lui qui avait assassiné son meilleur ami, on n'a jamais retrouvé le corps, voilà. Il y a plein de sujets d'injustice comme ça de par le monde, j'ai choisi celui-ci, je suis bretonne. Mes grands-parents en parlaient beaucoup de cette affaire-là, et du coup, voilà, c'est resté en moi, ça a mûri, et j'ai voulu écrire là-dessus. Pourquoi ? Pour moi, il y a des cas d'injustice qu'il ne faut surtout pas oublier. J'aurais pu en choisir un autre, mais c'est celui-ci. Il est évident que c'est une histoire, c'est une histoire vraie, c'est inspiré d'une histoire vraie. Je l'ai transposée en science-fiction, donc je l'ai transposée sur une autre planète. Le bagne, c'est une autre planète. Mon personnage, c'est pas Guillaume Cesnec, mais c'est un de ses descendants. Mais je touche quand même une histoire vraie, donc j'ai quand même demandé l'autorisation à la famille de Guillaume Cesnec. Et je vous avoue que le petit-fils de Guillaume Cesnec a été très très surpris quand je lui ai demandé. Donc, quand je lui ai dit, surtout que j'allais écrire pour les adolescents, là, il dit « aucun problème, mais en science-fiction ». Alors là, il m'a regardé, en science-fiction, il dit « déjà, je ne connais pas du tout la SF ». Mais bon, je vous fais confiance. Donc j'ai écrit le manuscrit, je lui ai donné, il en a été ravi. Et il m'a donné donc l'autorisation d'utiliser le matricule de Guillaume, qui est 49302, d'utiliser leur nom de famille, d'utiliser plein de petits éléments. Il m'a fait aussi cadeau d'énormément d'éléments. Et heureusement qu'il était là pour enrichir le bouquin, parce que sinon je pense que j'aurais été un peu perdue. Mais c'est très intéressant de traiter d'une histoire vraie.
Et par exemple, l'univers amérindien, on y revient. Est-ce que ça, c'est aussi un sujet que tu as envie de traiter, de retraiter, parce que...
Le souci, c'est quand j'ai fait un truc, j'aime pas trop revenir dessus.
D'accord.
Mais c'est vrai que donc j'ai écrit Moza Waza. Donc c'est sur, il y a une tribu amérindienne qui a envie. Alors ça se passe, je ne sais plus en quelle année, hein, en 2100 et quelque chose, qui arrive à revivre selon leurs coutumes ancestrales. Ça, c'était mon point de départ. J'ai écrit Imago, qui ne parle pas forcément des Amérindiens d'Amérique du Nord, mais qui parle de peuples premiers, on va dire des peuples certains peuples primitifs, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique centrale, en Amérique du Sud, il y en a un peu partout. Moi, ce qui m'intéresse chez ces peuples-là, ce sont les rites et le rapport qu'ils ont avec la nature et la planète. Voilà. Et ça, immanquablement, oui, je continuerai à traiter, à écrire des romans, certainement avec des peuples premiers. Mais alors, j'en reviens à 49302. Il est sorti en 2005 ou 2006. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est en 2009 est sorti Avatar. C'est ça, hein, je crois que c'est en 2009. Hein. Et j'ai été très très surprise de voir que la planète qui a été créée dans Avatar ressemble énormément à la mienne dans 49302. C'est exactement la même chose. Cette relation qu'il y a avec la nature, avec les arbres, j'ai été très surprise, déçue, parce qu'après on m'a dit « Ouais, vous avez copié sur Avatar ». Le seul truc, c'est que mon roman a été écrit en 2005 et Avatar est sorti en 2009. Mais flûte.
Là, c'est une preuve que tu étais dans l'inconscient collectif.
Bah, bien sûr, là, c'est...
Tu étais dans le sujet.
Ouais, c'est clair.
Alors, est-ce qu'on peut parler de tes... peut-être un peu plus, d'une façon un peu plus prosaïque, sur le rapport à l'éditeur, en fait. Comment est-ce que, quand on a... Enfin, je me mets dans la peau de l'éditeur, hein, quand on sait qu'on a, dans son écurie, une auteure comme ça qui aime tourner et jongler avec les sujets brûlants, quand tu appelles ton éditeur et que tu lui dis « J'ai un manuscrit, je vais te l'envoyer », il te dit pas attends que j'ai fini mon café ou attends que je revienne de vacances d'abord.
Maintenant, parce que je suis encore plus cruelle que ça, je lui dis pas. Je lui dis pas du tout. J'écris mon roman et je lui envoie.
Et alors ?
Et c'est la surprise.
Et alors ?
Ouais. Et alors ? Eh ben, c'est un choc. Voilà, c'est un choc. Il lui faut énormément de temps pour digérer et puis pour pouvoir essayer d'accepter le manuscrit en l'état. Mais c'est toujours un choc.
Et il y en a quelques-uns avec qui ça a été un combat ou un challenge pour qu'ils acceptent, entre guillemets, juste le sujet. Parce que généralement, un travail d'éditeur, c'est plus sur l'écriture. Mais là, c'est vraiment le sujet, quoi. C'est est-ce que je prends le pari ou pas de sortir un livre sur ce sujet-là. Parce que là, c'est quand même un travail d'équipe, du coup, à ce moment-là.
Ouais, mais les éditeurs sont hyper frileux, de plus en plus frileux. Et je vais prendre l'exemple de Brune et Jules. Brune et Jules, c'est une autofiction. Et quand je l'ai présenté à plusieurs éditeurs, parce que celui-ci, c'est pas de la science-fiction, quand je l'ai présenté à plusieurs éditeurs, qui pourtant publient des romans très, très coup de poing, ils m'ont dit, mais non, quoi. Non, c'est beaucoup trop dur pour qu'on le publie. Et moi, ça me... Enfin, je comprends, mais j'ai du mal à admettre que on refuse certains sujets de peur d'avoir des retombées plus parentales qu'autre chose.
Oui, il y a un choix, disons, avant, après, de pré-publication, presque de censure ou d'autocensure.
Ouais.
Est-ce que ça te permet, toi, de rebondir ensuite sur des sujets, de les creuser, d'approfondir un petit peu l'explication, lorsque tu rencontres le public dans les interventions scolaires, par exemple, les choses comme ça, est-ce que là, au niveau des discussions, ça te permet justement que le livre soit que le point de départ par rapport à un sujet de discussion et à un sujet de travail, par exemple, avec des classes ou autres, je sais pas, il n'y a pas eu des travaux de texte continués ou un autre univers, pas forcément autour de livres comme Brune et Jules, j'imagine, mais... Tu disais par exemple qu'il y avait des classes qui travaillaient de temps en temps sur la suite.
Ah, si les romans amenaient des travaux d'écriture,
oui,
après.
S'il y avait eu des.
Ah oui, j'en ai. Il y en a eu beaucoup. J'ai reçu aussi pas mal de suites très intéressantes. Mais c'est ça que je trouve génial dans ce monde, c'est que, ou dans moi, dans ma façon d'écrire, c'est que, comme je vous dis, je préfère laisser la part de l'imagination au lecteur. Et quand on apprend, on m'envoie des suites. Moi, je suis toujours émerveillée de voir que ça a pas, les personnes n'ont pas forcément la même sensibilité que moi. Et ils ont une toute autre vision de l'univers que moi, j'ai créé. Et je trouve ça génial. Après, pour moi, c'est précieux. Ce sont des petits trésors. Des petits trésors qui sont dans une petite malle que j'ouvre occasionnellement pour replonger dedans et me dire j'ai raison de continuer à écrire.
Alors quand on écrit tout le temps et quand on publie régulièrement, on a forcément une actualité. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc moi je vois deux petits livres, petits par leur format, mais certainement donc très intenses par leur contenu.
Malheureusement, oui.
Donc chez Mini Cirrhose, en fait, vivre et libre. Alors ouais. On a envie de donner les deux titres en même temps dans la même phrase presque. Mais est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais. En fait, c'est la première fois que j'écrivais pour des primaires. C'est une petite collection qui s'est montée, qui fait partie de cette maison d'édition là, qui publie les Soun. Ça, ce sont des petits mini Soun. C'est pour initier les primaires à la science-fiction et les amener petit à petit à lire des romans de science-fiction. Et quand on m'a demandé d'écrire pour cette collection-là, j'étais bien embêtée parce que j'ai pas l'habitude d'écrire pour les primaires. Et sachant que j'aborde des sujets toujours très très difficiles, mais bon, je me suis dit ok, on va essayer de le faire. Je l'ai fait, donc j'ai eu ces deux-là sont sortis cette année. Ça a commencé par Libre qui est sorti en janvier. Et Libre est parti d'un essai que j'ai lu qui s'appelle Eben. Ne me demandez pas le nom de l'auteur, je l'ai totalement zappé parce qu'en plus il a un nom assez compliqué à retenir, mais qui parle de tous ses voyages qu'il a fait en Afrique noire pendant 30 ou 40 ans. Et dans ce roman-là, je dénonce le colonialisme et l'esclavagisme, mais j'ai pas voulu le dénoncer comme je le faisais avec les gros romans. Je n'ai pas voulu le dénoncer en coup de poing. J'ai voulu le dénoncer juste à ce que ce soit amené comme ça en filigrane. Donc du coup, quand on commence à lire ce petit roman, on a l'impression que tout va bien parce que c'est sur une autre planète. Ce sont les terriens qui vont coloniser une autre planète. On a l'impression que tout va bien, que mon héroïne qui va dans une famille terrienne pour s'occuper du potager, elle est contente, elle est heureuse, il y a l'eau courante, elle voit des légumes, elle voit des choses qu'elle n'avait jamais vues, et elle se rend compte petit à petit qu'il y a quand même des trucs qui clochent. Je ne vous en dirai pas plus. Et puis Vivre. Alors Vivre, par contre, il a été beaucoup plus difficile à écrire. C'est le travail de deuil d'un petit garçon qui a une dizaine d'années, et sa sœur jumelle est décédée, et il a du mal à se remettre de ce décès. Et il a toujours ce lien très très fort avec elle, mais c'est un lien épistolaire. Évidemment, il n'y a pas de réponse, puisqu'elle est décédée, mais lui, il a besoin de ça pour garder le contact avec sa sœur. Et du coup, il ne voit plus ce qui se passe autour de lui. Et il est sur une autre planète également avec ses parents. Et il va rencontrer un extraterrestre qui va le faire totalement évoluer, lui faire changer son état d'esprit. Le faire s'ouvrir à la vie et tout en acceptant le décès de sa petite sœur. Et je l'ai écrit sans problème. Je savais que c'était un sujet quand même très très fort. Je l'ai laissé de côté. Il est paru. Je ne l'ai pas relu. Donc il est paru. Je l'ai dû le donner. Je l'ai donné il y a un an à l'éditeur et il est paru en septembre là. Et je l'ai lu il y a 3 semaines. Je l'ai lu dans une classe et je ne l'avais pas relu depuis. Et quand je l'ai relu à voix haute, je me suis dit mais bon sang. Mais c'est pour les primaires, mais c'est... Et je me suis dit, mais c'est trop dur. Et j'en ai parlé après autour de moi. Certaines personnes l'ont lu, m'ont dit, non, c'est pas dur. Le sujet n'est pas dur. C'est poignant, tout simplement. C'est tout simplement poignant. Il y a des émotions, c'est très triste, même s'il y a énormément d'espoir derrière. Mais je me rends compte que j'ai vraiment du mal à écrire quelque chose de très, très léger. J'ai envie de le faire, je vous assure. On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. On m'a dit, on vous met au défi d'écrire un roman drôle ou de l'anticipation totalement optimiste. C'est pas possible. L'anticipation optimiste, c'est pas possible. Mais un roman drôle, ouais, j'y ai pensé.
Nathalie Legendre dans la peau du nouveau Terry Pratchett, c'est ça?
Oula, pourquoi pas? Avec l'humour un peu décalé des Robin des Bois, je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez un peu, voilà.
Alors, il y a, dans l'actualité, il y a aussi Imago.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors Imago est particulier. Imago a commencé, enfin j'ai commencé à l'écrire en 2007. Habituellement, je mets 3 mois pour écrire un roman. Allez, on va dire 6 mois, pour être en comptant les corrections. Ce roman a commencé à l'écrire en 2007. C'était un projet avec un autre auteur. Le projet qu'on avait, c'était d'écrire chacun.
On peut citer l'autre auteur.
Ouais, je vais le dire, t'inquiète pas. Le projet qu'on avait, c'était écrire chacun un roman avec notre propre univers et nos propres personnages, mais que durant 4-5 chapitres, nos personnages se rencontraient. On trouvait ça très intéressant. L'auteur en question, c'est Pierre Bottero. Donc on a écrit nos bouquins. Bon, voilà, Pierre Bottero est décédé entre-temps. Évidemment, voilà, c'est toujours un choc, la disparition d'une personne qu'on aime beaucoup. Donc le roman, qui normalement avait été écrit en entre guillemets en fantasy, parce que c'est pas mon domaine de prédilection, mais bon, je m'y suis collée parce que je trouvais ça intéressant. Donc il a été écrit en fantasy. Quand Pierre est décédé, j'ai laissé le roman de côté, impossible de le récupérer. Je pouvais pas, émotionnellement je pouvais pas. J'ai attendu entre 6 mois et 1 an. Et là, au bout de 6 mois, on va dire 1 an, au bout d'un an, je me suis dit, mais je ne peux pas laisser un roman comme ça dans mes tiroirs. Il faut que je le sorte, au moins en hommage à Pierre. Le problème, c'est que comme la fantaisie, ce n'est pas mon domaine de prédilection, je me suis dit, je vais le réécrire et le transposer en science-fiction. Et un travail de réécriture sur un roman qui est déjà construit, qui est déjà dans un genre littéraire bien spécifique, c'est très, très difficile de le récupérer. D'autant que bon, la mort de Pierre rôdait derrière moi, c'est comme si j'avais son fantôme. Et je l'ai transposé en SF, mais juste en filigrane. Donc du coup, ce roman est particulier, parce que quand vous commencez à le lire, vous avez vraiment l'impression de lire de la fantasy. Et vous comprenez à partir du trois quarts du bouquin que les bestioles qui sont étranges, qu'on va rencontrer, qui sont télépathes, ou qui sont, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer sur Terre, on apprend vers la fin du roman. Mais je ne vous dis pas plus que ça, en fait. Si, il y a des manipulations génétiques, et voilà. Donc là, il y a un petit côté SF, j'ai réussi à le transposer comme ça. Mais la vache, ça a été extrêmement difficile. Et une fois que j'ai mis le point final et que l'éditeur a été OK pour le publier, j'ai fait, oh, la vache.
Et du coup, il y a encore des parties communes avec ce que tu avais fait dans la première écriture ou même plus du tout, quoi, en fait. Il a fallu revomir, comme tu disais.
Ouais, il a fallu revomir... mais pas sur le fond. Le fond, je l'ai gardé. Il y a quand même des passages qui restent similaires, mais qui ne sont pas... Enfin, qui restent similaires. En même temps, j'ai pas relu les âmes croisées. Donc, je peux pas exactement savoir. Mais moi, je sais qu'il y a certaines choses que j'ai laissées. Mais pas qui vont pas être directement liées justement au roman de Pierre. C'est, elles sont là parce que ça portera pas préjudice.
Oui, bien sûr. Et alors, aujourd'hui, donc, tu travailles avec Cirrose Édition pour... c'est ton éditeur...
C'était.
Principal. Alors, c'était ton éditeur principal. Alors, donc, là, entre deux, tu peux nous parler de cette actualité éditoriale, donc, de...
Eh bien, en fait, j'ai pas de maison d'édition attitrée. J'écris de la science-fiction. Il y a très peu de maisons de science-fiction, de maisons d'édition de science-fiction pour les adolescents et encore pire pour les primaires. C'est Cirrose.
Alors, par exemple, pour les jeunes lecteurs, donc tu peux nous expliquer comment tu conçois quand tu vas... Donc, tu es dans ton manuscrit, tu es en train de vomir et recorriger tout ça, et comment est-ce que tu penses à l'édition une fois que tu as écrit le mot fin, ou est-ce que c'est
c'est
dans tout le processus des discussions, des rencontres, voire envoyer des manuscrits simplement, enfin comment
Quand ce sont des romans de science-fiction, je sais très bien que j'ai écrit un roman de science-fiction, je vais le proposer directement à Cirrose. Qu'il le veuille ou qu'il me l'ait demandé ou pas demandé, normalement il ne demande pas, je l'envoie directement à Cirrose. Maintenant, si c'est un autre roman, par exemple de la littérature blanche comme Brune et Jules, littérature blanche, il n'y a pas de genre littéraire précis. Là, j'ai écrit mon roman et puis je l'envoie. J'ai certaines maisons d'édition en tête et je l'envoie et on voit si les réponses sont positives ou négatives. C'est pas parce qu'on a déjà publié que on est tranquille et que les manuscrits sont pris. Bien au contraire. Malheureusement, ça se passe pas comme ça.
Oui, à chaque fois, c'est un pari qu'il faut tenir.
Exactement. Donc là, j'en ai un qui est en correction pour une autre maison d'édition avec laquelle j'ai jamais travaillé parce qu'ils montent une nouvelle collection qui s'appelle Émotion. Là, c'était une commande, effectivement, donc là, aucun souci. J'ai une autre maison d'édition qui m'a demandé un roman, pareil, une commande. Ce sera peut-être de la science-fiction. Donc, il se peut que je travaille plus pour Syros. On verra. Mais c'est ce que j'aime, justement, dans ce métier. C'est rien n'est certain, rien n'est défini, et on peut aller où bon nous semble, au gré du vent, voilà.
Au gré du vent, au gré des sujets d'actualité.
Oui, aussi, ouais.
Enfin, des sujets d'émotion.
Ouais. En fait.
Alors, est-ce que tu, par exemple, dans tes attirances avec les cultures amérindiennes, pour parler de métempsychose et d'animaux, par exemple, ton animal totem, ce serait quoi, par exemple ?
Mon animal totem, ce serait quoi ? Ah, c'est une bonne question, ça. Je suis fanat des rapaces, j'adore les loups, mais non, ce sera ni l'un ni l'autre. Je me demande si ce ne serait pas la tortue de mer.
La tortue de mer ?
Ouais. Je sais pas pourquoi, je me suis prise d'affection pour les tortues de mer. Alors, déjà, ça vit très vieux. C'est cool, je trouve. Ça voyage beaucoup et c'est hyper fidèle.
Je pense qu'il y en a dans l'assistance qui vont te dessiner en Samy la nouvelle
ouais, pourquoi pas. Tortue. Mais moi, dans une tribu amérindienne, je serais plus chamane qu'autre chose. Je suis une vraie sorcière.
Bah, il faut pour agencer. On agence les mots, on agence les...
Non, le pire, c'est que je soigne ma famille avec des plantes et les pauvres, ils sont un peu dégoûtés parce que c'est pas forcément un goût terrible. Et je m'amuse. En fait, je fais des expériences sur les proches. Non, c'est sans rire. Ouais, je serais plus chamane que guerrière ou que ouais, chamane. Ouais, ça me va bien ça.
Alors, tu parles de ta cellule familiale. Est-ce que quand on est à ce point sensible, disons je dirais oui aux actualités brûlantes, aux sujets comme ça qui peuvent vraiment brasser. Est-ce qu'on arrive à créer soi-même sa bulle protectrice, son état, disons, de quiétude pour pouvoir écrire dans le silence ou dans le pour pouvoir être à un moment donné, il faut bien que tu te coupes de ce monde-là
réalité,
pour
ouais.
travailler sur l'émotion que tu as en toi pour la sortir dans le livre.
Ouais.
Comment
Ah, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Si, ça a été compliqué. Là, maintenant, ça ne l'est plus parce que j'ai réussi à trouver un équilibre. On a chacun normalement deux jambes, deux pieds. J'ai un pied qui reste dans le temps présent et l'autre qui reste dans mon monde, ma petite bulle justement de création. Et j'arrive à basculer de l'un à l'autre sans aucun problème. Donc, quand j'ai besoin de créer, j'ai pas besoin de m'enfermer dans une pièce. Déjà, j'aime pas être enfermée, donc j'ai pas besoin de m'enfermer dans une pièce. Je m'enferme déjà toute seule. J'ai une bulle transparente, mais qui est là, qui me protège et dans laquelle je serai toute seule. Personne peut intégrer cette bulle. Mais pour moi, c'est pas compliqué. C'est très très facile de passer d'un état à l'autre.
Alors, moi, quand j'étais petit, je croyais que écrivain c'était un travail sédentaire. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, les écrivains, ils passaient énormément de temps dans le courant de l'année sur les routes, dans les trains, pour aller à la rencontre du public, que ce soit par le biais de festivals, de salons, et des rencontres scolaires que vous connaissez tous certainement ici. Donc dans ce cas-là, comment est-ce que tu arrives à te protéger et à transporter ta bulle ? Alors là, on passe de la tortue de mer à l'escargot avec sa bulle sur le dos. Mais comment est-ce que tu arrives, par exemple, si tu as 2 mois de déplacement, presque...
Ouais, comme là, ouais.
Sans discontinuer, comment est-ce que tu arrives à garder ça ?
J'y arrive pas, par contre. Non, ça, j'y arrive pas. J'essaye, hein. Mais c'est pas possible. Je suis en déplacement, mes personnages ne sont plus là. J'ai plus de lien, j'ai plus rien.
Là, c'est une vraie coupure.
C'est une vraie coupure, d'accord. Une réelle coupure. Je peux pas faire autrement.
Bon, ben, on va leur dire au revoir quand même. Parce
au revoir.
Que je vois qu'il y a eu une hémorragie. pas
bah
de problème.
Au revoir, bonne journée.
Bonne continuation. Vous avez peut-être des questions si avant qu'on... Je ne sais pas s'il y a un micro. Non, non, il n'y a pas de micro dans la...
Est-ce que vous avez des questions ou pas ? Oui ? Un micro, le monsieur arrive.
Ah, super, il y a un micro qui
arrive. Merci. Là, le monsieur. Ici. Non, là.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai entendu que vous alliez écrire éventuellement un bouquin pour les vieux.
La vieillesse.
Vous avez également écrit des livres pour les primaires. Où est la différence d'écriture entre ces différents genres de livres? Enfin, je ne sais pas si c'est des différents genres, mais...
Il n'y en a pas de différence. Pour moi, il n'y en a pas. La seule différence qu'il puisse avoir, c'est quand on écrit un roman, soi-disant pour la jeunesse, on s'arrange pour que ça aille le plus vite possible, pour pas ennuyer le lecteur du tout. Mais en adulte, je ferai exactement la même chose. Je ne peux pas changer mon style d'écriture. Je vous avoue que je lis de moins en moins des romans adultes, parce que j'arrive pas à trouver un roman qui, du début jusqu'à la fin, va me tenir en haleine et dans lequel je vais pas sauter 2, 3, 4, voire 10 chapitres qui vont m'ennuyer parce que, voilà, c'est parfois des tas d'explications, de descriptions qui m'ennuient. Moi, ce que je veux, c'est aller au cœur, de l'essentiel. En jeunesse, c'est ce qu'on fait. Mais je sais que le roman que j'ai écrit, qui, apparemment, on m'a dit, est plus destiné pour les adultes que pour les jeunes, change pas. Ça change pas. C'est plus une réflexion qui est plus... qui, je pense, n'accrochera pas. Peut-être pas. Après, je peux me tromper, mais peut-être pas le jeune lecteur. C'est... Habituellement, quand j'écris pour les adolescents, mes personnages principaux sont adolescents. La limite, allez, on va dire, c'est même 18 ans. C'est vraiment... là, le roman justement que j'ai écrit, cette femme, la femme que je traite, il y a deux personnages. Il y a une jeune fille de 15-16 ans et une femme de 40 ans. Cette femme de 40 ans et cette jeune fille, finalement, je vous le dis, mais je devrais pas, mais ce sont les mêmes. C'est exactement la même personne. Mais c'est pas du tout la même réflexion. On n'a pas la même réflexion ou la même approche de la vie qu'on ait 15 ou qu'on ait 40 ans. Donc du coup, c'est là où je me dis peut-être que ça coincerait pour les jeunes, et c'est ce qu'on m'a dit aussi. Donc, mais c'est tout. Ce serait la seule chose, parce que mon écriture restera identique. Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Que vous apporte l'université en science-fiction?
Que m'apporte
l'univers, celle...
De science-fiction?
Oui.
Qu'est-ce que ça m'apporte?
Trop,
ouais. La question, elle est trop bonne, parce que je n'aime pas la science-fiction, pure et dure. La vraie science-fiction, comme moi je l'entends, hein, alors je fais attention à ce que je dis, parce que je sais que je vais me faire taper sur les doigts là, en ressortant de là. La science-fiction pure et dure, c'est trop scientifique et trop technologique pour moi. L'univers de science-fiction que je vais mettre dans mes romans, c'est juste du décor. C'est uniquement ça. Je vais m'éclater à imaginer un décor futuriste, à inventer des véhicules ou telle technologie. Je vais m'amuser comme une malade, en fait. Et pour moi, ça me permet de me libérer un petit peu des sujets durs que je traite. Voilà.
La littérature a-t-il toujours été votre passion? Dans vos livres, vous dites que vous avez voulu être pilote de moto.
Ouais. Non. En fait, j'ai jamais voulu devenir écrivain. Jamais. Ça m'a jamais traversé l'esprit. J'ai commencé à vouloir devenir écrivain il y a une dizaine d'années. C'est vrai qu'au départ, je voulais devenir pilote de course moto. Bon, c'est totalement à l'opposé, je l'avoue. Mais bon, je suis née sur une moto. Il y a eu des motos pendant mes 17 premières années de vie à la maison. Il n'y a eu que de ça. Donc voilà, c'était quelque chose qui était réellement en moi. Le problème, c'est que quand j'ai annoncé ça à mon père, je devais avoir 15-16 ans, et mon père m'a dit « Bah non, c'est pas possible parce que t'es une fille ». Et ça, je l'ai très très mal pris. J'ai vraiment très mal... je l'ai pas digéré du tout. Donc du coup, beaucoup plus tard, j'ai passé mon permis moto et je me suis amusée à piloter sur piste. Pas en professionnel, mais tant pis, au moins je l'ai fait, pour prouver que bah si, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on n'est pas capable de...
Bonjour.
Bonjour.
Vivez-vous de votre passion littéraire?
Alors déjà, pour moi, c'est pas une passion. C'est une respiration. Je vous explique. Respirer, c'est normal, c'est naturel, c'est vital, c'est automatique. On se réveille pas un matin en se disant « Bon, allez, je respire 3 heures, après j'arrête parce que ça me fatigue. » Pour moi, la respiration et l'écriture, c'est la même chose. L'écriture, chez moi, c'est naturel, c'est vital, et je ne m'en rends même pas compte. On se rend pas compte quand on respire. Et je m'en rends même pas compte. Je ne m'en rendais pas compte. Donc, est-ce que j'arrive à vivre de ma respiration, on va dire? Non, je survis. Ce qui est déjà pas mal. Mais c'est très difficile. Si un jour vous voulez gagner beaucoup d'argent, je vous déconseille un métier artistique. Ou alors vous avez un autre métier à côté.
Pourquoi vos histoires tournent-elles toujours autour des Indiens ?
Ah, pourquoi les Amérindiens ? Comme je vous ai expliqué, j'aime beaucoup les peuples premiers, ce rapport qu'ils ont justement avec la nature et le fait de penser que c'est pas la planète qui nous appartient, c'est nous qui appartenons à la planète. Il y a une philosophie de vie qui pour moi est très importante. C'est pour ça que je suis très attirée par les Amérindiens. Mais depuis toute petite.
Connaissez-vous Léonard Peltier, l'homme emprisonné auquel vous dédiez votre livre Mosaïosa ?
Malheureusement, non. Malheureusement, il est toujours emprisonné, aux dernières nouvelles, alors qu'il aurait dû sortir. J'aurais aimé le rencontrer, mais tant qu'il est en prison, c'est impossible. Voilà, je le connais pas plus, non, pas plus que ça.
Bonjour.
Bonjour.
D'où tirez-vous votre inspiration ?
Du monde qui nous entoure, principalement, du monde qui nous entoure, et beaucoup de vécu. Il y a énormément de vécu. Alors si c'est pas mon vécu propre, parce que je ne me mets pas forcément tout le temps en scène, si c'est pas du vécu propre, ça va être le vécu de certaines personnes de mon entourage. Je vais pas les mettre en scène, ces personnes-là. Je vais juste puiser dans leurs émotions. Vous avez lu Mosaïosa ? Si j'entends parler de Léonard Peltier, il y en a qui ont lu Mosaïosa ?
Un peu,
ouais. Dans Mosaïosa, je parle du combat face à la maladie, je parle de la drogue, du sida. La drogue, le sida, c'est deux de mes oncles, voilà, qui se sont détruits partiellement à la drogue dure, devant mes yeux. Ils sont allés en prison tous les deux. Il y en a un qui est sidéen maintenant, ça fait de nombreuses années. Et toutes leurs souffrances, toutes leurs émotions, je leur ai piqué, en fait, leurs émotions. Et c'est pour rendre beaucoup plus crédibles mes personnages. Et c'est pour moi, c'est vital. Je ne peux pas raconter, je ne peux pas traiter d'un sujet si je ne le connais pas. Ou si certaines personnes de mon entourage ne peuvent pas me donner certaines émotions pour à véhiculer dans mes propres personnages.
Quel est votre cursus scolaire ?
Pas littéraire du tout. Pas littéraire du tout. Donc pilote de course moto, ça c'était fait, mon père ne voulait pas. Je voulais devenir dessinatrice. Et ben là, c'est ma mère qui a dit non. J'ai toujours été passionnée par le théâtre et par la comédie. Je me suis dit, bon, je vais devenir comédienne. Ma mère, elle m'a dit non. Ma mère, elle m'a dit, je suis secrétaire. Eh ben, tu seras secrétaire. Donc, j'ai passé un bac de secrétariat. Et je remercie ma mère. Parce que grâce à ça, je sais taper avec mes 10 doigts et sans regarder. Et je tape très, très vite. Et quand on est auteur, c'est un super avantage. Donc, je suis... Alors, en gros, ma philosophie de vie, c'est toujours tirer du positif, du négatif. Donc, je suis très contente d'avoir passé un bac de secrétariat, sauf que c'est pas mon métier, moi. Donc, je me suis orientée vers des études d'architecture. Je me suis dit, il y a de la création, ça va être génial. Je me suis ennuyée, mais royalement ennuyée, parce que c'était pas mon truc non plus. Donc, j'ai tout arrêté, j'ai fait une formation de comédienne, je suis restée dans une troupe professionnelle pendant quelques temps, et après, j'ai voulu me faire publier. Voilà, le parcours. Alors, moralité de la chose, c'est pas parce qu'on est sur un chemin qu'on peut pas dévier.
Bonjour.
Bonjour.
Comment faites-vous pour faire connaître vos romans ?
Ils se font connaître tout seuls, je pense. Je pense qu'ils se font connaître tout seuls. Enfin, je fais rien de particulier. Je participe à beaucoup de salons, de festivals. Je fais beaucoup de rencontres. Mais les rencontres, c'est pas moi qui vais les orchestrer. Ça va être les enseignants qui vont me passer un coup de fil et me dire, voilà, on a envie de travailler sur tel ou tel de vos bouquins. Est-ce que vous pouvez venir en parler ? Voilà, ça fonctionne comme ça. Mais c'est pas à moi de le faire. Déjà, d'une, je suis pas commerciale et c'est pas... Enfin, j'y arriverai pas, quoi.
La première fois que vous avez écrit, comment vous avez connu des éditeurs ?
Ah, donc ça, c'est pas la... Non, ouais. La première fois que j'ai voulu me faire publier. En fait, tout est parti d'un manuscrit que j'ai envoyé par la poste, parce que je vivais à l'étranger à cette époque. Et le manuscrit que j'ai envoyé s'est perdu, soi-disant. Et donc au bout d'un an, j'attendais toujours la réponse, je ne savais pas où était passé ce fichu manuscrit, et je pensais qu'il était toujours en lecture. Et quand le directeur de la collection à qui j'avais envoyé le manuscrit m'a dit « Non, moi je ne l'ai jamais reçu », je dis « Bon, bah, je vais vous le redonner ». Et là, il l'a reçu, il l'a lu, au bout de 2 semaines j'ai eu une réponse. Je suis désolée, je vais être un petit peu grossière, j'ai pas eu tant de chance que ça, mais... quand même, la lettre qu'il m'a envoyée, il m'a dit, je la résume, c'est pas très, c'est grossier, hein, c'est de la merde. En gros, c'est ça. Et effectivement, quand j'ai relu le manuscrit quelques temps plus tard, je me suis rendu compte, ouais, j'ai eu honte de lui avoir envoyé un manuscrit pareil, parce que c'était catastrophique. Mais ce monsieur-là, donc quand il m'a envoyé le courrier, donc je l'ai reçu, je reçois le matin, et l'après-midi, il m'appelle en me disant « Bon, est-ce que tu as reçu le courrier ?» Je dis « Oui, je l'ai reçu. » Parce que, bon, tu te rends compte, ton intrigue, elle tient pas debout, c'est pas cohérent, en plus, c'est même pas de la science-fiction. Je dis « Ouais, non, je pense que c'était pas la peine de m'appeler pour en plus m'assassiner. Le courrier, je l'avais compris. Non, je t'appelle pas pour ça. Je t'appelle, en fait, pour te dire que j'ai beaucoup aimé les émotions que tu fais passer à travers tes personnages, et j'aimerais que tu écrives un roman pour moi. » Et c'est parti comme ça. Donc, dans mon malheur, entre guillemets, j'ai eu beaucoup de chance.
De quand date votre envie d'écrire ?
C'est pas comme ça que je formulerais la question. Comme j'ai toujours écrit, depuis que je sais tenir un stylo, j'écris des histoires. J'ai commencé à faire de petits manuscrits, j'étais adolescente. De plus gros manuscrits, j'ai commencé, je devais avoir une vingtaine d'années, mais j'avais jamais eu l'intention de me faire publier. J'ai commencé, je devais avoir 29-30 ans.
Comment s'écrit un roman ?
Comment s'écrit un roman ? Comment s'écrit un roman ?
Oui.
Avec les tripes. Pour moi, parce qu'on a tous une façon différente de créer. Pour moi, ça s'écrit avec les tripes, un roman.
C'est bon ? On va...
Il n'y a plus de questions ? Oui. Oui. Ah, le cannibalisme, ça faisait un moment que je voulais en parler. En fait, il y a des sujets qui sont tabous dans beaucoup de sociétés. Chez nous, c'est très tabou quand même, hein, le cannibalisme. Sauf que là, c'est de l'endocannibalisme. Pour moi, c'est quand même différent. J'avais envie de le traiter. Et quand j'ai commencé à parler de ma tribu et que j'ai cherché les rites dans plusieurs... Sur plusieurs coins de la planète, je me suis aperçue qu'il y avait quelques tribus qui étaient endocannibalistes, et je me suis dit « Yes !» C'est bon, enfin je vais pouvoir en parler. Mais je sais que ça a choqué certaines personnes, les adolescents pas du tout. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est les différences qui puissent exister sur Terre, et que c'est pas parce que nous, on voit ça d'un œil... dégoûté, qu'il ne faut pas comprendre et admettre les coutumes d'autres peuples ou d'autres tribus.
À propos de cannibalisme, on va laisser Nathalie aller se restaurer.
Non, je ne mange personne.
Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette rencontre. Je remercie Nathalie Legendre de sa disponibilité, de son sourire et de son écriture. Merci. À bientôt.
Merci beaucoup et bonne journée.
I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it